et les autres, d'une éthique de la solidarité au sacrement du prochain. Voici une conférence du père Michel Dagra, théologien du diocèse de Toulouse, conférence enregistrée le 6 août 2013 lors des mardis de l'été proposés par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan Saint-Jean-de-Luz. Et les autres, d'une éthique de la solidarité au sacrement du prochain, le père Michel Dagra.
Nous pourrions d'abord évoquer quelques aspects relatifs à la solidarité avec sa composante anthropologique, la solidarité humaine, ça fait partie de notre art de vivre. Mais en même temps, il y a une éthique de la solidarité, c'est-à-dire une manière de se comporter vis-à-vis des autres qui intègre cette préoccupation de solidarité sur laquelle nous reviendrons. Et puis de l'éthique de la solidarité au sacrement du prochain, voilà une expression qui est assez neuve, qu'on n'entend pas beaucoup, inattendue, mais dans le contexte de l'année de la foi, il me semble que pour un chrétien, c'est un des points clés de notre foi, et nous allons le voir même de notre credo, à condition de le prendre dans son cœur, dans son centre, à savoir le Christ. Dans le premier cas, nous nous référons donc solidarité à l'anthropologie et à l'éthique. Et dans le deuxième aspect, le sacrement du prochain, la référence est inévitablement évangélique. Donc je vous propose ce parcours de la solidarité au sacrement. Et avec une ouverture sur des conséquences un peu plus concrètes, parce que c'est bien gentil de remuer les idées, d'approfondir des questions qui sont effectivement majeures, mais encore faut-il que ça débouche sur des propositions d'activité. Nous y serons ensemble, il y aura un débat aussi bien. Vous attendez à ce point. Alors d'abord, les bases anthropologiques de la solidarité. Je vous invite à partir de loin, en remarquant ceci. Au commencement de nos vies, était une solidarité étrange, particulièrement forte. La solidarité que nous vivions chacun avec notre maman, avant la naissance et tout de suite après. Au commencement était la solidarité. Celle-là, elle était, dans les conditions normales, particulièrement forte. C'est le fait de ce qu'on pourrait appeler une naissance inachevée. Nous avons été enfantés, physiologiquement, un petit peu affectivement, mais il faut du temps pour que suive la conscience, la capacité de réfléchir par soi-même, de décider. Cela n'est pas encore enfanté, c'est toujours chez les parents. Quand on décide d'habiller un gamin, on ne lui demande pas comment il veut choisir sa barbotasse ou sa bavette. Les parents s'en occupent. Pareil pour l'école. Pareil pour la foi. La demande du baptême s'adresse aux parents. Et si les parents ne sont pas d'accord, pour saint Thomas d'Aquin, au moins, c'est une bonne référence, le baptême est invalide. Ça nous sort de tout automatisme, là, d'un baptême qui, parce qu'il est administré, automatiquement sauve. Et il faut voir quelle est l'image de Dieu que l'on mettrait là-derrière. Donc, cette première étape de la vie qui nous immerge dans une solidarité profonde, enfant, c'est une des significations du mot, plonger dans la fontaine initiale. Voilà, ce fut notre condition au départ. Et d'ailleurs, ça continue un peu, car pour vivre, il a fallu que nous nous adaptions. Il y a le moule de la culture, la langue que nous avons apprise, notre façon de nous comporter et de raisonner, tout simplement. Le regard que nous portons sur les autres et sur l'environnement, la culture, tout ceci est redevable d'une solidarité initiale prégnante dans laquelle nous sommes profondément immergés. Et dans laquelle parfois nous restons. Il est très difficile de décrocher de cette réalité fondamentale, première. Mais il se trouve que dans le parcours de nos existences, à un moment ou à l'autre, de façon vive ou discrète, et de toute façon réelle, apparaît l'autre, qui nous casse en quelque sorte le moule initial et qui fait intervenir une différence. Alors, essayons d'être concrets. C'est lorsque, je ne prends qu'un exemple, parmi bien d'autres, quand le second arrive dans la famille. Ça pose un problème à l'aîné. Jusqu'alors, il avait tout le gâteau pour lui, de l'affection des parents, des jouets. Et puis tout d'un coup, un autre intervient, et il va falloir partager. Et parfois, il y en a besoin d'avoir l'œil sur le petit ou la petite, parce qu'il y a des marques d'affection où les bras se serrent très fort. Il faut faire attention. C'est le premier choc de la rencontre avec la différence. Il y en a d'autres quand on apprend à se tenir propre, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas saisir n'importe quel objet. Le contact avec l'interdit. Des choses sont interdites. Et l'interdit vient de l'extérieur. Cet interdit, il fait comme un tracé de frontière autour de nous. Il nous donne une forme. Il nous identifie. Le petit garçon n'est pas une petite fille, et réciproquement. L'enfant n'est pas un adulte. C'est contesté, d'accord, mais écoutez. Laissez-moi l'avantage de vivre à mon âge. On pourra me débattre après, j'ai décidé sur la question, mais patientons un peu. Soyez sympas, nous sommes en Saint-Jean-de-Luz, un pays très chrétien. Je préfère profiter de l'occasion encore pendant quelques instants. Bon, alors je vais prendre un exemple plus facile. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Ah oui, ça va mieux. Il y a donc des différences. Et ces différences, ce choc de l'interdit qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à une totalité humaine parce que d'autres sont sur des espaces qui ne sont pas les nôtres, est l'occasion d'une frustration, bien sûr, mais en même temps d'une chance. Tiens, l'autre peut m'apprendre des choses ou me fournir des biens dont je ne dispose pas, et réciproquement. La sexualité sépare et coupe, alors vous pouvez la mettre hétéro, homo, tout ce que vous voudrez. La sexualité sépare, c'est le sens du mot latin, et crée une condition de communication où chez l'autre, il y a des biens que je ne possède pas moi-même. C'est vrai à l'intérieur du couple, c'est vrai dans la parentalité, c'est vrai dans l'interculturel, c'est vrai de multiples propos. Et ici, dans ce pays, entre Basque et Béarnais, il y a... je vois vos sourires compréhensifs. Donc, nous aboutissons, nous partons d'une solidarité initiale qui est comme un bloc, on baigne dans l'identique, à une solidarité dans la différence. Tu es différent de moi, je suis différent de toi, et nous sommes solidaires dans cette condition, grâce à laquelle, dans le meilleur cas, l'altérité peut nous nourrir, fait un échange de biens, d'expériences bénéfiques. Et on sait très bien que, dans le développement humain, la gestion de cette altérité constitue le cœur même de l'expérience humaine. On le voit dans les couples, c'est assez emblématique, mais on le voit dans toute autre circonstance. Avec, c'est connu, cette tendance parfois, car c'est une épreuve que de vivre l'altérité, l'autre et l'autre, avec donc la tendance à réduire cette épreuve et à retourner sur des expériences qui, elles, sont plus fusionnelles. Je veux que tu penses comme moi. À ce moment, l'autre n'est plus différent, il pense comme moi. C'est le syndrome de la politique chez nous. On va écouter l'homme politique de notre bord, on sait donc ce qu'il va dire, et on applaudit à la fin. On applaudit donc de n'avoir rien appris. C'est assez curieux, comme quand on regarde au fond des choses. L'altérité n'y est plus. Et l'autre, différent, est un opposant. Il faut le détruire, l'éliminer. Et tout le langage du débat politique est un langage, non pas de débat, mais de combat. On part en campagne, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a... La colonisation, en elle-même, dans son principe même, est fusionnelle. Il faut que l'autre devienne comme moi. Et on a vu, donc, des Africains apprendre, nos ancêtres les Gaulois, blonds, etc. Et on a vu des... Alors, l'Église catholique occidentale, de ce point de vue-là, pourrait balayer devant sa porte. car on a oublié la diversité des rites et des cultes d'Orient en particulier, pour tranquillement imposer nos façons à nous de vivre la foi dans des aires culturelles différentes de la nôtre, comme l'Afrique et autres lieux. Ça pose un problème. La diversité catholique, on ne sait plus trop ce qu'elle devient. Or, la diversité catholique a un principe fondamentalement humain, c'est celui du respect de la diversité. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, le « vous serez comme des dieux », cette tentation initiale, et finalement, comme des dieux, pas comme la Trinité, puisque justement il y a de la diversité à l'intérieur du Dieu unique. Et vous serez comme des dieux est une invitation à supprimer l'altérité et à tout faire fusionner sous l'autorité de celui qui prétend avoir tout pouvoir. Donc, le refus de l'autre, position assez fréquente en nous-mêmes et dans le monde dans lequel nous vivons, cette exclusion de l'altérité, ces communautarismes et ces racismes multiples ont comme fond commun le refus de la différence et donc de la relation féconde avec l'autre. Il y a un document d'Église qui est à cet égard remarquable et dont on peut retrouver la lecture avec bonheur. C'est l'encyclique de Paul VI en 1967, Populorum Progressio. Cette encyclique a été considérée par Benoît XVI comme le Rerum Novarum du XXe siècle. Alors, il faut faire un arrêt sur image là, et s'expliquer un peu. À la fin du XIXe siècle, une encyclique révolutionnaire est sortie par Léon XIII qui s'appelle Rerum Novarum. Il y a des choses nouvelles dans la société de ce XIXe siècle finissant. Il y a notamment une condition prolétarienne qui a vu le jour et qui est inhumaine. Ce n'est pas convenable. Pour un chrétien qui a, au nom du Christ, le souci de l'autre, on ne peut pas tolérer une chose pareille. Et toute une encyclique, donc, se déploie sur le droit de l'homme, le droit de l'ouvrier, le droit d'association, etc. Ça fait un choc. Les grands bourgeois du nord de la France, qui tenaient des mines, des fabriques, des usines, avec un prolétariat sur place, ont menacé les curés, leurs curés, si jamais, de leur couper les vivres, si jamais ils lisaient et commentaient cette encyclique. C'était quand même pas mal. Ce fut l'époque aussi où le même pape, Léon XIII, avait demandé au cardinal de la Vigerie, archevêque d'Alger, de faire un toast, de faire une proclamation demandant aux catholiques de se rallier à la République. Oh, la République, c'était le démon. C'est resté encore après. Et peut-être parfois encore. Et il commit le toast d'Alger devant un public d'officiers de la Royale. Cela n'était pas particulièrement révolutionnaire. Ça a fait un drame. Mais il disait, mais le pape, mais dans cette République, il y a des choses bonnes pour l'homme. Veuillez bien en tenir compte et vous déterminer en conséquence. Donc une révolution anthropologique en quelque sorte, sociale au moins, soutenue par l'Église. Et d'anniversaire en anniversaire, on voit tout le XXe siècle jalonné d'encycliques sociales, fêtant en quelque sorte cette première encyclique Rerum Novarum. Alors, 40 ans après, ça fait 4 ans, 10 mois, 40 ans, 90 plus 40, ça fait 30, en pleine crise des années 30. Et puis Octogésimoine Vénias, 80 ans après. Et donc ça fait dans les années 70, on commence à être dans les questions de colonisation ou autre. Et on trouve donc Populorum Progressio en 1967, après le Concile, qui lui aussi a son apport caractéristique sur cette solidarité humaine. Je ne cite qu'un passage, ne serait-ce que pour émoustiller le public, mais peut-être l'ai-je cité l'an dernier, ou quand la dernière fois que je suis venu. C'est dans Gaudium et Spes, quant au titre de la solidarité humaine, il est écrit ceci, si un homme se trouve dans l'extrême nécessité, il a le droit, pas la permission, le droit, que se procurer l'indispensable au détriment des richesses d'autrui. Chaque fois, ça fait un grand silence, comme ça. Parce que Dieu a fait les biens de la création pour que ce soit partagé entre tous de façon équitable, en tenant compte de la justice, évidemment, c'est pas la peine de sucrer n'importe comment ceux qui font rien. Et enfin, on ne peut pas. On est bien obligé de se dire, nous sommes tous des êtres humains, solidaires dans l'humanité, il faut en tenir compte. Donc l'encyclique Populorum Progressio va avoir deux chapitres. La structure de l'encyclique est très simple. Une, sur le développement intégral de l'homme. Voilà, l'homme est appelé à se développer intégralement, tout entier. Son corps, son cœur, son esprit, son intelligence, sa volonté, ce qui suppose un développement physique élémentaire. Il apparaît que quand on a très faim, c'est très difficile de réfléchir. Maintenant, quand on est complètement gavé aussi, donc, que ce soit par excès ou par défaut, il y a une mesure à trouver. Donc un développement intégral qui aboutit jusqu'à cette liberté de conscience, cette liberté intérieure, cette capacité de s'ouvrir sur le sens de la vie, de choisir l'option de la foi ou de la refuser. Développement intégral. Mais en même temps, un développement solidaire. Car l'homme tout seul n'existe pas. Nous venons d'un père et d'une mère, lesquels viennent des grands-parents, et nos arrière-grands-parents, etc. Ça fait très vite un entonnoir, une progression géométrique qui fait un monde de fou en amont. Et comme ils étaient moins nombreux que nous maintenant, il y a quelques siècles, ça veut dire que les cousinages sont multiples et on se trouve dans des pays, des régions où il y a plusieurs types morphologiques, ça veut dire que vous êtes tous parents. Solidarité. Mais cette solidarité doit donc, de façon éthique, s'accomplir dans cette gestion du bien que l'on a, du souci de l'autre, du partage, de l'avancer ensemble. Bref, tout ce à quoi nous sommes sollicités et qui est si difficile parce qu'on a toujours tendance à se replier sur des précarés avec lesquels on se trouve bien et à la limite, tant pis pour les autres. Alors là, il y a une gestion absolument paradoxale. On n'a pas à faire une leçon comme si les recettes existaient et étaient faciles. Nous avons à la fois le besoin, le droit, le devoir de respecter ce que nous sommes dans la perspective du développement intégral, et en même temps, et tout autant, porter le souci des autres, et réciproquement. Celui qui trouverait la recette pour traiter cette équation, eh bien, il aurait gagné le paradis. Donc, il reste à faire en fonction de ce que vous avez vu la dernière fois. Du coup, la palette des solidarités va être reprise dans la dernière encyclique, l'avant-dernière maintenant, l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, où il est question, et c'est assez neuf comme préoccupation, de solidarité internationale, bien sûr, intercommunautaire, interpersonnelle, porter le souci des uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ, écrivait Saint Paul. Donc le souci des pays qui sont dans la faim, et il est quand même tragique de voir que nous sommes dans un état de bonheur tout à fait compréhensible et tout à fait normal, mais que d'autres, pendant ce temps, vivent dans la pénurie extrême. Mais en même temps, il y a une solidarité, puisque la solidarité humaine ne doit pas avoir de limite, aussi intergénérationnelle. Et par exemple, c'est un des points clés de cette encyclique-là, se préoccuper d'écologie, faire de cette terre une terre viable, la transmettre en un état convenable à nos successeurs, à nos descendants, c'est faire œuvre de solidarité. Solidarité intergénérationnelle. Il y a charge de revanche pour les moins vieux, les plus jeunes. Ça veut dire que vous avez apporté aussi le souci des personnes âgées. Et respecter vos parents, vos grands-parents et vos ancêtres. Et parfois, on assiste à des glissements qui nous éloignent de ces perspectives-là. Voilà, en termes de solidarité, ce qu'on peut rappeler. Donc une solidarité qui est profondément ancrée à l'humanité et qui ouvre sur des perspectives éthiques, au sens, prenant un grand mot, de l'égalité que nous trouvons au frontispice de notre République. Égalité, fraternité, voilà. Liberté, ça serait du côté du développement intégral, égalité et fraternité du côté du développement solidaire. Tout ça est bien laïque, mais on sait très bien que les bases, les sources, les racines de cette laïcité plongent dans la culture chrétienne, donc nous ne perdons quand même pas pied vis-à-vis de cela. Et si Léon XIII a demandé le ralliement à la République, c'est le ralliement à ses grandes causes, à ses grandes valeurs, dont nous savons par ailleurs nous-mêmes qu'elles viennent quand même de l'Évangile, ce qui n'est pas mal. Voilà. Et cette solidarité, je finis là-dessus pour le moment, c'est un chantier, une entreprise qui n'est jamais finie, d'autant plus que le paradoxe que je soulignais tout à l'heure demeure. Je me souviens d'un professeur allemand, c'était pas loin après la guerre, qui m'avait invité chez lui. C'était remarquable compte tenu de la situation en France à l'époque. Ils se redressaient déjà à toute vitesse, et à la fin de la rencontre, quand il me ramenait chez moi, il me dit, mais ouais, maintenant soyez honnête envers moi, est-ce que je ne suis pas trop riche par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Et vous posez la question, c'est à vous de chercher la réponse, mais bravo de poser la question. Et après, c'est à chacun, chacune, en fonction de sa situation, ses besoins, de se poser la question de la solidarité. Nous ne pouvons pas ne pas nous la poser. Ou alors, nous nous aveuglons, nous nous fermons, nous restons dans notre bulle, nous continuons à gratter notre fromage, et puis c'est fini. Voilà une première chose. Donc, il y a une éthique de la solidarité, c'est évident. Si on veut rapporter cela immédiatement à l'Évangile, nous avons le commandement du décalogue, aime ton prochain comme toi-même, c'est une base solidaire assez exceptionnelle. Mais voilà, justement, et si l'on entrait maintenant dans l'approche chrétienne de cette solidarité, et il me semble-t-il, c'est par là que nous allons aboutir vers la situation sacramentelle du prochain. Bon, comme je change de chapitre, est-ce que ça va là? Je suis audible, compréhensible? Je vous endors pas trop vite? Vous vous souvenez ce que je vous dis l'an dernier sur le sommeil? Alors ça, il faut que je le rappelle. Il y en a qui s'en souviennent? C'est bien la peine que je vienne faire des conférences. Si le sommeil vous prend, ne résistez pas, dormez. Pour ceci, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on lutte contre le sommeil, on n'écoute pas. On consomme toute son énergie à essayer d'avoir les yeux ouverts. On n'écoute rien. Donc il vaut mieux dormir. Des fois, on se réveille avant la faim. Là, on est dispo et au moins, on pompe quelque chose. Deuxième raison, elle est pédagogique. Un public qui dort fout la paix aux conférenciers. Il y a des cas où ça peut être très agréable. La troisième raison, elle est morale. Quand on dort, on ne peut pas commettre de péché. Parce que pour commettre un péché, il faut le vouloir. Et quand on dort, on ne veut rien. Il y a même une raison mystique, mais là je l'évoque à peine, c'est que pour certains pères de l'Église, au moins, le sommeil était l'image de la mort, et c'est une échéance vers laquelle nous avançons tous, et peut-être avons-nous parfois intérêt à méditer sur cette question. De nouveau, un silence. Donc pour ces raisons mystiques, morales, pédagogiques et physiologiques, si j'en vois qui partent un peu, j'essaierai de parler doucement pour les filles. Et je considère comme pervers les conférenciers ou les profs qui veulent maintenir leur public éveillé. On est contre tous les risques qu'ils courent. Bon, alors en attendant que vous entriez dans cette béatitude, je continue mon propos. Première observation pour un chrétien. Rien de ce qui est humain ne peut nous être étranger, car le Christ, il est Dieu qui s'est fait totalement homme. Et même en amont, je peux dire, le Christ, il a créé l'homme. Donc rien de ce qui est humain ne peut nous être étranger. Et parfois, on a pris des libertés par rapport à ce devoir. On a oublié le corps, on a oublié l'esprit. Alors le corps, la pénitence à tout craint, comme ça, et qui peut, dans des étapes pas possibles, ou une justification de la souffrance. Une interprétation de la souffrance, oui, une justification. Des fois, on a éteint l'esprit, obéi, croit, comme un périnder cadavre, comme on disait des fois, c'était comme un cadavre. Des fois, on a oublié toute cette part de l'homme qui est la responsabilité. Fais ce qu'on te dit, ne cherche pas à être responsable. Pas d'initiative, surtout pas d'initiative. J'ai vu ça une fois dans un texte de pape. Les laïcs n'ont aucune initiative à prendre. Il faut qu'ils prennent leurs ordres des prêtres. Donc ça a changé. Ça n'a pas résisté autant. L'homme est créé par Dieu. Le Christ, il est l'homme nouveau, totalement habité par Dieu, totalement homme, homme en toute chose hormis le péché. Le péché nous dégrade, donc encore plus homme que nous ne le sommes. Donc toutes ces questions relatives à la solidarité, ah, je veux dire la solidarité, Jésus. Jésus de Nazareth, une personne bien typée, la solidarité, eh bien, il y a une solidarité humaine chez lui. Il est d'une famille, d'un pays, d'un milieu, d'une langue. Dès qu'il commence sa vie publique, il fait un groupe solidaire dans une diversité considérable. Il faut relire au chapitre 10 de Saint Matthieu la liste des apôtres. Matthieu le publicain, Simon le zélote. Un publicain, c'était un collecteur d'impôts qui trafique avec les Romains. Un zélote, c'est quelqu'un qui veut mettre les Romains dans la mer. Un jour, voulant émoustiller des jeunes religieuses sur cette question qui était en session, il a dit, imaginez, Matthieu le publicain et Simon le zélote se rencontrant tout seuls le soir au coin d'un bois. Et il y a une lune avec un regard de Sainte Vierge, ça leur passe après, mais au début, ça sert. Elle me dit, oh, ils auraient dit le bréviaire. Et elle me dit, c'est vrai, c'est possible, des fois, vous savez, c'est la prière qui passe par-dessus les différences. Donc une solidarité. On va y revenir tout à l'heure. Le premier visage sous lequel le Christ s'est présenté à Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Il persécute l'Église. Un groupe solidaire dans sa diversité. Donc de Jésus, nous pouvons dire qu'il a commencé dans le sein de Marie comme nous tous, un enfant, un adolescent, un adulte, un charpentier, un homme à part entière, capable d'émotion, de responsabilité, témoin d'une solidarité initiale, comme nous, et en même temps acteur d'une solidarité dans la diversité. Le groupe des apôtres, l'ouverture à l'universel. Quand même intéressant que Saint-Luc mette dès le début de l'évangile l'arrivée des mages. D'abord les bergers, c'était des marginaux, déjà pas mal, des mages qui viennent d'Orient, qui n'ont jamais ouvert la Bible. Les premiers témoins de la nativité des païens. Il faut le faire. La syrophénicienne, citer un exemple, c'est une païenne. Le centurion, dont nous reprenons les paroles à la communion, un païen. Quelle solidarité au-delà des diversités culturelles, religieuses. Et le fin du fin, le temple détruit. Je démolirai ce temple. Vous démolissez. Je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Le voile du temple qui se déchire. C'est fini le temple. Il n'y a plus de temple. Le temple, c'est cette solidarité humaine autour du Christ. Dont l'allégorie du corps sera l'exemple. Et les premiers chrétiens, Constantin leur permet d'être au grand jour, ils ne construisent pas de temple. Ils entrent dans des basiliques. Basilique, c'est un édifice public dans lequel le prince ou l'empereur reçoit le monde. Dans certaines basiliques, il y a l'évêque, la cathèdre, il s'assoit dans les cathédrales. Les églises que l'on construit, attendez, les églises, ce sont les communautés, les ecclésias. On met un toit dessus pour les abriter. Et par transfert, on va appeler église le bâtiment. Vous êtes des pierres vivantes entrant dans l'édifice de ce temple. Il va falloir attendre la réforme pour retrouver le mot temple. Parce que, évidemment, voulant se débarrasser de la tradition catholique, se replonge dans les Écritures, il y a toutes les pages de l'Ancien Testament, ils voient temple, donc ils piquent ça, ils ramassent temple, il y en a des temples. Donc une sorte de solidarité qui fait craquer, si vous voulez, toutes les frontières, les limites, ces espèces d'enfermement ou de risque d'enfermement dans lequel le monde, fut-il religieux, nous met. À la base de cette solidarité, nous avons le Notre Père. Apprends-nous à prier, Seigneur. Quand vous priez, dites Père. Donc vous êtes tous frères et sœurs. Une solidarité familiale. Une solidarité dont le ciment va être la charité, bien sûr, et l'expression concrète est les béatitudes. Tout un programme. Et le commandement de l'amour, aime ton prochain comme toi-même, qui est déjà de l'Ancien Testament, sera à la base de la foi judéo-chrétienne. Mais voilà maintenant la nouveauté. Il y a un nouveau commandement, un commandement nouveau. C'est celui du Christ. Ce n'est pas aime ton prochain comme toi-même. Pour illustrer, aime ton prochain comme toi-même, Jésus présente la parabole du bon samaritain. Et il dit, fais cela et tu vivras. Donc ce n'est pas cela qui est le Nouveau Testament. La parabole du bon samaritain, c'est de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Parce que la parabole du bon samaritain, c'est pour expliquer les commandements de la loi de Moïse. Le commandement nouveau, ce n'est pas celui-là. C'est « aimez-vous comme je vous ai aimé ». Il y a une différence. Ce n'est plus comme toi-même, c'est comme Jésus aime. Alors là, on est devant l'impossible. Et c'est là qu'on va voir la pointe du sacramentel apparaître. Comment puis-je prétendre, moi, aimer comme Jésus aime? Je me prendrai pour qui? Ce n'est pas possible. Donc si Jésus nous dit « aimez-vous comme je vous ai aimé », ça ne devient envisageable que si lui-même se met à aimer par nous. Et le voilà le mystère chrétien. Ce n'est pas un mystère d'exemplarité. Ce n'est pas d'abord un mystère d'exemplarité. Ce n'est pas d'abord un mystère d'éthique et de morale, les béatitudes. C'est d'abord un mystère de communion. Ma chair est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Et Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et le point maximum de notre expérience chrétienne, c'est la Sainte Communion. Quelqu'un vient habiter en nous. À partir de ce moment-là, soyons logiques, nous ne sommes plus habilités à dire seulement « je », mais « nous ». Il me faut pardonner. Moi, je n'arrive pas. Seigneur, toi, en moi, tu veux le pardonner. J'accepte que tu pardonnes. Je te prête tout ce que je suis, pour que ton pardon passe. Ça, c'est chrétien. Là, le commandement nouveau peut être appliqué. Quand le prêtre dit « Je te pardonne tes péchés », c'est pas lui qui cause. Enfin, c'est lui qui parle, mais quelqu'un d'autre parle par lui. Parce que les péchés du pénitent ou de la pénitente, nous, on n'en a rien à faire. C'est pas notre problème. C'est une affaire entre Dieu et la personne. Le secret de la confession repose là-dessus. C'est pas un secret au titre de la discrétion. C'est un secret au titre que ça ne nous regarde pas. Quand nous disons sur le pain et le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est pas notre corps, c'est pas notre sang, quelqu'un d'autre parle en nous. Nous sommes dans une spiritualité, non pas de l'imitation, mais de l'habitation. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Plus intime en moi-même que moi-même, écrit saint Augustin. Et là, mes amis, nous sommes loin du compte. Parce qu'on n'y arrive pas facilement. On le vit, ça se passe, nous communions, mais pour le réaliser, pour l'intégrer, cette capacité de dire nous, c'est beaucoup plus difficile. Alors, avançons un peu plus. Nous avons déjà pas mal posé de bases. Quand on cherche à retrouver dans les Écritures l'essentiel de la foi chrétienne, il y a une petite phrase qui revient, qui est au centre de tous les discours des apôtres après la résurrection. C'est « Le Christ est ressuscité, nous en sommes témoins ». C'est du chinois. Il faut le traduire, ceci. L'expliquer un minimum. Sinon, c'est du « la langue de bois ». On va réciter ça, le proclamer tout le temps. C'est l'année de la foi, le kérigme, on appelle le c'est le mot grec qui désigne cette petite phrase. Le Christ est ressuscité, nous en sommes témoins. Et pour Pâques, Christ est ressuscité, on fait la fête. Mais on dit quoi en disant Christ est ressuscité? Bien, essayons quelques instants de désigner, de reconnaître ce dont il s'agit. Christ, c'est un mot grec. Ça veut dire consacré, attaché à Dieu. L'homme uni à Dieu. Voilà le Christ. Continuons de le dire en grec, mais essayons de le traduire. Ça veut dire Dieu aime tellement l'homme qu'il fait cause commune avec lui, en restant lui, et en nous respectant dans notre liberté. Et là, il faudrait ouvrir toute une réflexion sur le mystère du Christ. Je crois que vous avez ça au programme un peu plus tard. Totalement Dieu, totalement homme, totalement Dieu. Il sait tout de toute éternité. Il est infini, immortel, totalement homme. Il a appris à lire et à écrire. Il a eu l'angoisse des hommes, à l'agonie. Il a souffert jusqu'à la mort. Il est mort. C'est le mystère de l'incarnation. Il est là, le mystère de l'incarnation. Une personne, mais qui épouse en elle-même l'humanité et la divinité. Christ. Ceux qui s'attachent dans leur humanité à cette réalité, ceux qui vivent cette conjonction entre Dieu et l'homme, en s'accrochant au Christ, ils sont sauvés. La vie de Dieu passe dans leur vie humaine. La communication entre eux établit cette circulation de vie. Sauvés. Allez, disons cela maintenant, pas en grec, mais en hébreu. Sauvés. Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur. Donc quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire sauvé parce que uni à Dieu. Et d'un. Voyons, un petit point très concret, en fait, que nous retrouvons dans nos pratiques chrétiennes pour bien éclairer cette affaire. Il y a une parole de Jean-Baptiste que nous redisons au moment de la communion. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand dans l'ancienne tradition, on voulait rentrer en relation avec Dieu, on offrait un sacrifice. Alors voilà des mots qui ont complètement changé de sens. Essayons de comprendre. Dieu habite dans les nuées, par là-haut. Il faut s'attirer ses bonnes grâces. On va donc lui faire un cadeau. On va prendre la plus belle tête de bétail que l'on possède, ou les prémices d'une récolte, et on va les faire passer à Dieu. Avec l'idée d'ailleurs que c'est Dieu qui les a données, on lui offre, mais il y a quelque part, une idée de restitution. Problème technique. Comment faire passer à Dieu un taureau avec la loi de la pesanteur qui existait même autrefois? Alors on le tue, comme ça il bouge moins. On le brûle, parce que dans les conditions normales de température et de pression, la fumée monte. Et Dieu récupère le taureau sous forme de fumée. Et l'homme n'a plus rien, puisque tout est brûlé. Holocotoma, tout brûlé, holocauste, voilà ce que ça veut dire. On ne mégote pas avec Dieu, on lui donne tout. Dieu, tu prends tout. Au bout d'un moment, alors, du coup, la structure, elle est là. Le sacrifice, c'est l'action par laquelle on fait passer quelque chose, c'est sacré, sacrifice, quelque chose de profane, le bœuf, le veau, les prémices. On le fait monter vers Dieu, fumer vers Dieu, sacrifice. Et ce que l'on fait passer, il faut bien l'étiqueter d'un mot, on va appeler ça la victime. Inutile de vous dire que dans le langage courant aujourd'hui, ces sens sont complètement changés. Et si on veut complètement leurrer les gens sur ces questions-là, continuons d'utiliser un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. Il faut à tout prix le traduire. Sinon, on fait des faux sens, pour ne pas dire des contresens. Donc Jésus, c'est celui qui établit la relation entre Dieu et l'homme. Il est le sacrifice parfait. On ne peut pas faire mieux. La communication entre Dieu et l'homme est absolue en lui. On peut l'appeler l'agneau de Dieu. Tiens, c'est d'ailleurs curieux, parce que d'habitude, dans les sacrifices, c'est l'homme qui offre l'agneau à Dieu. Mais là, c'est l'inverse. L'agneau de Dieu, c'est Dieu qui donne ce qu'il a de meilleur à l'homme. La grâce du salut nous vient de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, c'est la séparation. L'union, c'est le contraire du péché. Voici l'agneau de Dieu qui rétablit la communication, l'alliance parfaite entre Dieu et l'homme. Il est tout à fait cohérent d'entendre cette parole et d'en faire nourriture pour notre foi au moment où nous communions, où se réalise effectivement, concrètement, intimement, spirituellement, la relation entre Dieu et nous. Donc quand nous disons Jésus-Christ est ressuscité, nous pouvons dire il a gagné sur la mort. Mort est ta victoire, c'est vrai. On a voulu détruire cette alliance parfaite. Il est victorieux. Le tombeau est vide. Et nous disons en même temps, cette grande vérité de Dieu fait homme, cette grande vérité de l'alliance nouvelle, cette grande vérité et ce bonheur de la communication enfin établi, ce n'est plus une histoire d'il y a 21 siècles, c'est aujourd'hui. Il est ressuscité, il est vivant. Et aussitôt, dans les évangiles, nous avons les récits de la résurrection qui déploient, en quelque sorte, cette vérité du Christ ressuscité. Dieu fait homme, c'est aujourd'hui. Alors, qui allons-nous trouver là-dedans ? Plusieurs personnalités. D'abord, Marie-Madeleine, au tombeau. Elle ne reconnaît pas Jésus, tout de suite. Elle le prend pour le jardinier du cimetière. C'est quand même une femme qui connaissait bien Jésus, qui connaissait ses traits, qui en plus avait de l'affection pour lui. L'avoir sous les yeux et pas le reconnaître, il y a un problème. Suivent les disciples d'Emmaüs. C'est pas mieux. Les disciples, ils connaissent le visage de leur maître. Celui-ci marche avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ils le prennent pour un habitant de Jérusalem. Tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé. Les apôtres qui étaient revenus à la pêche. Jésus est au bord du lac en train de préparer du poisson. Ils ne le reconnaissent pas, tant que Jean, finalement, le reconnaît. Ce qui donne d'ailleurs un passage assez curieux, où on voit Pierre, qui était tout nu dans la barque, s'habiller pour se jeter à l'eau. Curieux. J'attends un commentaire avisé de ce passage. Et je souhaite entendre que le pape ne pratique pas l'évangile à la lettre. On ne le reconnaît pas. Et il y a dans cette marque une phrase qui est absolument lumineuse. C'est un trésor, c'est une pierre précieuse, cette phrase. C'est au chapitre 16, au verset 12. Marc, vous savez, il est très succinct, il résume beaucoup, il va à l'essentiel. Et à propos des disciples d'Emmaüs, pour lesquels dans Saint-Luc il y a toute une page, il écrit simplement ceci. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui faisaient route vers la campagne. Le ressuscité n'est plus prisonnier du visage particulier du Nazarénien et peut se rendre présent sous la forme humaine qu'il veut. Et la meilleure preuve, nous l'avons, je l'évoquais tout à l'heure, dans la conversion de Paul, qui, lorsqu'il est terrassé à Damas, pose la question « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse, c'est « Je suis Jésus que tu persécutes. » Or, il persécute l'Église. La forme sous laquelle, privilégiée, sous laquelle le Seigneur se présente dans le monde, c'est l'Église, dans la diversité de ses membres. Diversité de ses membres, parce que Paul, le même, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 12, présente l'Église sous l'allégorie du corps. Il dit, si la main disait au pied, je ne suis pas du corps. Si l'œil disait à l'oreille, alors là, il n'y a plus aucune de. Rien de commun entre eux. Hein. C'est Dieu qui a voulu placer les membres dans leur diversité. Solidarité dans la diversité. Solidarité d'un corps dans la diversité. Il faut une unité dans cette diversité. Qu'ils aient une mutuelle sollicitude pour les plus démunis. Solidaires avec les plus pauvres. Et tout de suite après, chapitre 13, l'hymne de la charité. Vous voulez du détail sur ce ciment qui unit tous ces membres entre eux ? La charité, l'amour. Et vous voyez donc, mes amis, que ce mystère du Christ sauveur, Dieu fait homme parmi nous, éclate par la résurrection et donne sa présence dans la diversité humaine que nous, ce que nous sommes. Et il finit en disant, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Ah, il monte au ciel. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Oui, et en même temps, il est avec nous jusqu'à la fin des siècles. Paradoxe de l'incarnation. Totalement Dieu, totalement homme. Mais ça y est, la condition chrétienne, maintenant, elle est là. La tradition de l'Église, dès le début, va connaître des problèmes qui vont être solutionnés sur la base de cette conviction de foi. D'abord, des Grecs frappent à la porte de la communauté chrétienne. Certains vont dire, attendez, c'est des Grecs. Hein. Devenez d'abord juifs, puis on en reparlera. D'autres disent, non, attendez, soyez tranquilles. Hein. Jésus a déblayé tout ça. Débat. Premier concile œcuménique, Jérusalem. Conclusion du concile, d'accord, ils peuvent venir. Pourvu qu'ils ne mangent pas des chairs étouffées, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas ce geste religieux de s'approprier la vie, c'est le péché originel, et qu'ils ne sacrifient pas aux idoles. Très bien. Et Paul continuera en disant, on l'avait à l'écriture il n'y a pas longtemps, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave. Solidarité profondément humaine et encore plus solidarité dans la foi. Vous n'êtes plus seulement des images de Dieu, vous êtes des fils de Dieu. Des porte-Christ. Alors, peut-être qu'on va trop loin, il faut tenter. Ne faisons pas n'importe quoi, n'allons pas voir le Christ partout. Ou jusqu'où peut-on ne pas aller? Et essayons de voir ça. Il y a la présentation du jugement dernier. Matthieu 25. Jésus rassemble toutes les nations. Alors, il distribue comme les bergers font, les chèvres à droite et les boucs à gauche. Aucune allusion politique. Hein, c'est... Et il dit aux uns, à ceux qui sont à droite, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez désaltéré. Et ces gens-là disent, quand est-ce qu'on t'a vu ainsi? Tiens, s'ils posent cette question, c'est que ce ne sont pas des chrétiens. Si c'était des chrétiens, ils auraient été au catéchisme. Alors, on aurait appris que servir l'autre, c'était servir le Christ. Donc, servir le Christ dans l'autre, ça peut se faire sans qu'on le reconnaisse. La réalité de ce qui se passe, elle est là. Bon, il faut aller plus loin. Dans la tradition première de l'Église, on a entre autres Saint Martin, qui partage son manteau avec un pauvre. Le manteau d'un officier romain ne lui appartenait qu'à moitié. Donc il donne la moitié qui lui appartient à lui. L'autre, c'est à l'armée. Il donne aux pauvres. La nuit, ce pauvre lui apparaît sous les traits du Christ. Règle de Saint Benoît, au chapitre 53. Quand vous recevez l'autre, c'est le Christ que vous recevez. Comportez-vous en conséquence. Concile Vatican II, au numéro 8, d'un décret sur la formation et la... des futurs prêtres. Pierre Dufourcq et moi, qui avons été supérieurs de leur séminaire, nous souvenons bien de ce passage. On leur apprendra, aux futurs prêtres, et c'est bon pour tout le monde, à chercher le Christ dans les hommes auxquels ils sont envoyés. Chercher le Christ dans les hommes auxquels ils sont envoyés. D'habitude, on va porter le Christ, l'Évangile, mais très bien, il faut. Mais en même temps, le chercher dans les hommes auxquels il s'est envoyé, en particulier les pauvres, les enfants, les malades, les pécheurs et les incroyants. Pas dans le péché, dans le pécheur. Pas dans l'incroyance, dans l'incroyant. Dieu qui aime tous les hommes ne va pas mettre des robinets à cette source. Il se rend présent partout. Ah, parfois, disent les anciens, les pères de l'Église, comme des semences, semences du Verbe. Ce n'est pas le Christ établi dans toute sa perfection. Et commencement, des fois le Christ vous outrage, et nous sommes capables par nos péchés de le faire. Des fois le Christ grimé sous des visages bizarres, car on n'a pas encore identifié et on confond avec autre chose. Et cette question de la présence du Christ en humanité fait partie de notre foi. Nous ne sommes pas les fidèles d'une morale, nous ne sommes pas d'abord les fidèles d'une morale, nous sommes d'abord les aimés et les amoureux de quelqu'un qui se donne à nous par la médiation des autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Conséquence, il nous faut accepter, dans la foi, de passer d'une conception de l'homme image de Dieu, ce qui est déjà pas mal, à une conception de l'homme appelé être fils de Dieu. Nous ne sommes plus des images, mais des fils. Peut-être des fils en devenir, peut-être des fils prodigues qui sont attendus par le Père. Dans le Credo, la première parole que nous disons et qui est reprise par deux fois dans le Credo, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant. La Toute-Puissance est une Toute-Puissance qui s'affecte au substantif qui est indiqué là. C'est une Toute-Puissance paternelle. La Toute-Puissance du Père, elle est signifiée dans l'Évangile par le retour du Fils prodigue. Et l'attitude du Père qui l'embrasse, qui ne lui dit rien, il le couvre de baisers. Et il y a cette belle reproduction de Rembrandt, ce beau tableau qui représente le retour du prodigue. On voit les mains du Père sur les épaules du Fils. Une main d'homme et une main de femme. La totalité de l'affection humaine médiatisée dans le mystère du Christ pour manifester l'amour dont nous sommes enveloppés. Donc une solidarité évangélique basée sur cette sacramentalité de tout homme et tout particulièrement du chrétien qui a communié. Nous disons notre Père avant de communier. Le pain que nous recevons est un pain partagé. Voilà. Le jour où nous accepterons de méditer sur ce qu'est l'Eucharistie et sur la liberté de l'Église pour nous offrir aujourd'hui cette Eucharistie célébrée une fois pour toutes par le Christ. Jésus prit du pain, le bénit, le partage, le distribue en disant « Ceci est mon corps. » Tiens, la parole n'est pas sur un morceau de pain. Du pain qui est pris, béni, partagé, distribué. « Ceci est mon corps. » C'est vivant. Et l'Église, dans ce pouvoir que lui reconnaît et que rappelle le Concile de Trente, l'Église a toujours eu le pouvoir de modifier les rites des sacrements en fonction des circonstances de temps et de lieu, pour le bien spirituel des fidèles et pour le respect des sacrements eux-mêmes. J'ai eu à donner ce texte plusieurs fois à des intégristes qui venaient poser quelques objections et qui ne sont jamais revenus. Ouais, le Concile de Trente la règle leur compte. Pas imaginer mieux. Eh bien, cette Église, plutôt que de faire le geste au moment où elle le dit, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit, réserve ce geste à la communion, car il est très important à la communion de se rappeler, de vérifier, de constater, de ne pas oublier que nous recevons un pain partagé, un Christ qui se donne aux autres, un Christ qui nous rend solidaires, solides ensemble. Et au moment où nous devenons sacrement porteurs du Christ, l'ostensoir, c'est nous. Nous avons à le rayonner dans notre vie de tous les jours. Solidarité chrétienne et sacramentalité humaine, ça marche ensemble. C'est cousu ensemble. Donc nous passons d'une solidarité circonstancielle de destin. En venant ici, j'étais solidaire de tous les passagers du wagon dans lequel j'étais. On nous a truqué sur l'horaire de la SNCF. On était solidaire dans la ralente. Et de solidarité de nature, nous sommes tous des êtres humains, à part entière, sous des visages divers, des âges et des cultures diverses. Nous avons à vivre une solidarité éthique. C'est le pape dans la dernière, dans Benoît XVI. Présente bien les choses, nous faisons des contrats entre nous, pour que ces contrats ne soient pas trop iniques. La justice arrive là-dessus et fait une solidarité plus belle, mais la solidarité n'est vraiment humaine que quand il y a là-dedans l'ajout de la gratuité. Au-delà de la justice, la gratuité, jamais sans elle, mais au-delà, voilà. Nous arrivons donc là à une solidarité éthique. Et puis il y a une solidarité mystique, celle qui nous fait tous fils de Dieu. Et qui nous invite à vivre comme tel, dans la bonne nouvelle d'être habité par lui.
Et les autres, d'une éthique de la solidarité au sacrement du prochain. Vous venez de suivre une conférence du père Michel Dagra, théologien du diocèse de Toulouse. Conférence enregistrée le 6 août 2013, lors des mardis de l'été, proposée par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan, Saint-Jean-de-Luz.